Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec Rafik Djoumi.
C'est moi.
Salut Rafik.
Salut Steph.
Pour parler d'un film que tu vénères. Disons-le carrément, moi je pense en fait, il faut le dire, tu vénères ce film.
Non mais c'est parce que c'est le sommet du film d'action des années 90, il faut le dire. Et que comme on est là dans cette émission pour justement contrer l'histoire officielle, hein, parce qu'il y a des gens qui essaient de nous faire croire que, je sais pas quoi, Die Hard 3, mes couilles, ce genre de truc. Bon, non, l'année 95, elle était marquée par...
Alors c'est 96.
Oui, en plus, tu vois, donc comme quoi...
Elle était marquée par The Rock et Broken Arrow.
Alors qu'on avait donc Executive Decision, une production de Joel Silver, quoi, qui n'a jamais autant brillé de mille feux, et il fallait rendre justice à ce classique, tout simplement.
Ouais. Alors, Ultime Décision en français.
Oui.
Deux Stuart Baird.
Deux. Quand on dit deux, c'est comme si on disait l'auteur du film s'appelle Stuart Baird.
Non, réalisé par Stuart Baird, donc. Avec Kurt Russell, Steven Seagal, Halle Berry.
Oui.
Voilà. Alors déjà, pour commencer, tu nous pitches le film.
Alors, je vous pitche le film. Donc le film raconte l'histoire d'un commando qui est censé mettre la main sur un produit ultra toxique, une arme bactériologique de sa race. Une seule goutte suffit à tuer une ville entière, en gros, quoi. Je crois que c'est, je sais plus, la Z-55 ou un truc comme ça.
Voilà.
C'est une troupe commando menée par Steven Seagal.
Sa majesté.
Puisque, bon, qui dit CIA commando dit forcément Steven Seagal.
Forcément.
On va prendre quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Ouais.
Voilà, assisté entre autres de John Leguizamo et compagnie.
Et en fait, Wong.
Voilà, ils attaquent un fort tchétchène et finalement ils trouvent pas le produit en question. Et parallèlement à ça, il y a toute une histoire compliquée de terroriste qui est arrêté, un de ces hommes de main qui décide de faire péter un restaurant en Angleterre pour, on va dire, délivrer un message et de détourner un avion, un vol qui va de la Grèce aux États-Unis en gros, pour faire du terrorisme, quoi, exiger ceci.
La libération, en fait, de leur leader
donc,
à la base.
Tout à fait.
Sauf que ça cache un plan.
Sauf que ça cache un plan. Et donc, l'expert en terrorisme joué par Kurt Russell, sans que justement il y a Anguille Souroche et que la façon de gérer cette crise diplomatique et terroriste ne vise pas à s'assurer simplement de libérer les otages, c'est-à-dire en gros en faisant ce que les terroristes veulent, mais il a probablement l'intention de faire un gros coup sur le territoire américain, de lancer une attaque utiliser ce fameux produit. Pour gazer les Américains. Donc l'idée, ça va être de pouvoir infiltrer cet avion en vol. Et pour ça, ils vont utiliser un appareil à l'époque
furtif.
Non, j'ai plus le nom exactement. Je suis désolé parce que bon, il faudra aller sur les bases de données spécialisées
armes.com.
Non, mais c'est ça. Hein, Internet Movie Arms Database, ça existe. On a vérifié. Il y a bien un site entièrement consacré aux armes dans les films et aux véhicules militaires. Donc ils prennent cet avion majestueux.
C'est un appareil furtif, en fait.
Un appareil furtif qui s'appelle le Ramora, pour pouvoir en fait se glisser sous la carlingue du Boeing et infiltrer le Boeing au nez et à la barbe de ces terroristes qui, en l'occurrence, ne sont pas barbus. Sauf qu'évidemment, ça va pas forcément se passer comme prévu.
Il faut pas tout spoiler.
Et il y a un gros spoiler.
Voilà. Il faut pas tout spoiler tout de suite.
Mais ils vont trouver un allié inattendu en la personne de Halle Berry, donc qui joue une hôtesse de l'air qui a repéré qu'il y avait des gars cachés dans la carlingue de l'avion et qui en gros va leur servir Dieu, on va dire.
Ouais. Voilà. Très bien. Alors, Stuart Baird, bon, il a peut-être pas, c'est peut-être pas l'auteur du film, mais en fait, on peut peut-être le présenter parce que c'est son premier long métrage, ouais. Mais il vient pas de nulle part.
Non, il vient clairement pas de nulle part. Stuart Baird, en fait, avant ça, il a une grande réputation de fixeur. Dans les majors hollywoodiennes, c'est censé être le gars qui vient sauver les films quand vraiment ils sont dans la merde. C'est un monteur, donc très compétent et du coup très demandé et qui va beaucoup bosser sur les productions Joel Silver. Donc c'est un vieux de la vieille, hein. Il était déjà sur les films de Ken Russell dans les années 70, type Tommy et compagnie,
sont des films extrêmement le Superman de Donner aussi.
Exactement, hein. Le Superman de Donner, tout à fait. Outland de Peter Iams, tous ces trucs-là. Et en fait, avec Joel Silver, basiquement, c'est devenu son homme de confiance, si tu veux. Que ce soit sur Les Armes Fatales, sur Die Hard 2, ton film favori.
Sur Die Hard 2, il est responsable du montage.
Ouais. Et bien sûr.
Dernier Samaritain aussi.
Et Demolition Man. Mm.
Un de ses gros faits d'armes, en fait, en tant que monteur et pour fixer un film, c'était la production de Tango et Cash. C'est-à-dire qu'en gros, il arrivait sur le film, il voyait ce qui manquait, et il disait au studio, OK, il faut re-shooter ça et ça.
Ça.
Et en gros, si ça y est pas, on peut pas faire le film, on peut pas. Et surtout, l'idée, c'est pas tant l'idée uniquement qu'en fait, il puisse finir le film, mais finir le film dans les temps. Ça c'est très important aussi parce que en gros il y a des dates de sortie qui sont déjà prévues à l'avance et en fait il faut quelqu'un qui puisse dire OK, on a besoin de tout ça dans le film. Il faut sortir à cette date-là, voilà comment on va faire.
Voilà, donc un mec très organisé à ce niveau-là et qui effectivement attache une importance cruciale à la cohérence scénique. Il faut que tout soit dit là. Souvent. C'est pas forcément un expérimentateur. C'est pas quelqu'un qui va. Non mais voilà.
C'est rien de le dire.
Mais. Non mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va nous faire une espèce de montage poétique autour d'une idée ou ce genre de choses. Il faut simplement que le spectateur comprenne ce qui se passe. Mais par contre, chez Stuart Baird, il y a toujours le plan qui est là pour que tu comprennes. C'est visible d'ailleurs dans ce film dès le début, puisque lorsqu'on a le personnage de Kurt Russell qui en fait prend des cours de pilotage au début du film, la façon avec laquelle on voit une nana arriver en bagnole pour lui dire ça y est, on y est, tout ça, la bagnole n'est pas filmée n'importe comment, il filme d'abord la porte pour qu'on voit le logo de l'agence gouvernementale qui ensuite monte sur la meuf, et donc tu comprends du coup que Kurt Russell travaille pour une agence gouvernementale. Tu vois, c'est donc ça c'est typiquement ce que la frustration du monteur qui a monté des tels films et qui n'avait pas ces plans là tu vois, ouais. Pour justement expliquer ce qui n'est pas dit dans les dialogues. Donc c'est du montage très très fonctionnel qui fait que du coup il y a un côté un petit peu peut-être pour certains
ceci pépère. Étant dit, si je peux rajouter un petit truc sur l'exemple spécifique que tu dis en revoyant le film, parce qu'on a revu le film évidemment pour enregistrer cet épisode, et quand il est en train de piloter au début, il y a son nom qui apparaît à l'écran avec sa fonction, hein.
Certes.
Donc si tu veux, on n'est jamais trop prudent, quoi.
Oui, et au début, quand t'as l'attaque de la villa tchétchène, il y a marqué que c'est une villa tchétchène.
Steven Seagal.
Parce que le fait d'avoir des Ruskov en train de faire ougoulou goulou à l'écran n'était pas suffisant pour qu'on comprenne que c'était des Tchétchènes. Je disais qu'il y a un côté tranquille peinard dans la mise en scène de Stuart Baird. Elle est purement fonctionnelle. C'est pas une mise en scène, encore une fois, qui va rajouter un niveau de décryptage ou de compréhension au récit, quoi. Donc c'est un mec qui est là pour littéralement livrer ce que le script est censé dire. Alors le script, effectivement, c'est Jim et John Thomas,
les scénaristes de Predator.
Ouais, tout à voilà. Fait
mais on en est quand même loin, en fait, hein, de parce que là, c'est vraiment deux projets complètement différents, hein, pour le coup. C'est avec une stratégie militaire malgré tout,
non,
au milieu.
Le truc, on peut reconnaître leur style au fait qu'ils choisissent un cadre d'action, en fait. Predator, c'est vraiment cette idée d'être dans la jungle aux prises avec un ennemi invisible. Là, l'idée c'est d'avoir en fait un film catastrophe, comme on en a vu déjà des tonnes, parce qu'on sait que Joel Silver, en tant que producteur, n'a finalement fait que ça. Hein, c'est un mec, on sait que Joel Silver, c'est un mec qui s'est complètement consciemment inscrit dans la lignée de Irvine Allen, donc
version sur, action, quoi,
voilà, ouais. Le producteur de La Tour Infernale, Poséidon et tous ces trucs-là des années 70, version action, c'est-à-dire en rajoutant de l'action à ce qui était au départ des films catastrophes, d'où un Die Hard 2, ton film favori, qui est tellement un Airport avec un flic et des terroristes. Donc là, effectivement, on a le concept d'Airport hein, dans ce film-là, puisque basiquement, il y a un détournement là qui va de toute façon mener à un climax dans lequel un mec qui n'est pas un pilote de ligne est censé à faire atterrir un 747 en péril. Donc là-dessus, on est complètement dans la lignée du film catastrophe. Mais donc, du coup, il y a cette idée de ces mecs qui ont vu des films catastrophes et qui se disent « Ok, c'est sympa, un détournement d'otage, mais si... » Dans la soute à bagages, il y avait un groupe de commandos. Donc, et à partir de là, tu construis tout un récit. Ça, c'est éminemment cinématographique parce que ça veut dire que tu dois jouer sur le silence, sur les regards, sur ceux qui savent pas comment on se cache les trucs et tout ça. Donc, et tu utilises toute la topographie de l'appareil pour ça. C'est assez ingénieux.
C'est ingénieux. Puis en fait, il y a encore une fois, je pense qu'il y a ce qu'on ça s'oublie assez rapidement dans Predator hein, au final parce que le film devient vraiment un survival quoi. Mais il y a toute une logique de stratégie militaire au début, on te montre en fait un groupe en action en train de fonctionner de manière en fait avec de manière assez précise et rigoureuse, ce qui est exactement le cas aussi de d'Ultime Décision, c'est-à-dire que la façon dont eux en fait opèrent dans l'avion ça c'est réaliste on va dire entre guillemets. D'ailleurs c'est un des points intéressants je trouve du film, c'est que en comparaison à tous les films d'action qui traitent de terrorisme on va dire tu vois, moi j'ai en tête évidemment les trucs de bourrin finis comme tu vois Invasion USA ou les trucs comme ça, là ça se voulait. Alors je dis bien ça se voulait parce que quand tu le revois 25 ans après, c'est un peu moins le cas, quoi. Ça se voulait beaucoup plus réaliste, en fait. Ça se voulait beaucoup plus. Ça se voulait beaucoup plus proche, en fait, de ce qui se de ce qui, à, du terrorisme, en fait, tel qu'il se pratiquait dans le monde à ce moment-là aussi, quoi.
Par rapport aux militaires, oui. Par rapport à la stratégie militaire, il y a un souci, un vague souci de réalisme. Toute la partie de la mission où ils doivent justement conduire le Ramora sous l'avion pour pouvoir s'y inclure sans que ce soit repéré par les terroristes. On peut imaginer qu'ils avaient des stratèges militaires qui leur expliquaient ceci, cela. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, c'est Hollywood, il faut quand même que ça pète un peu. Et puis bon, voilà, tu vois un mec comme Oliver Platt, tu sais bien qu'un type comme ça va pas se retrouver au milieu d'une bande de rois de la gâchette pour une opération d'envergure aussi compliquée, quoi. Puisqu'en gros, Oliver Platt, c'est censé être le spécialiste de
c'est le spécialiste du hacking et de trucs. Ouais, mais il y a aussi.
Joe Morton, qui jouait le scientifique de Cyberdyne dans Terminator 2, qui apparemment s'était spécialisé dans les rôles de mecs, comment dire.
Mais dans Speed.
Et dans Speed, voilà, ouais. Dans les rôles de mecs en train d'agoniser, qui lui donc est là pour désamorcer la bombe, on va dire, quoi, enfin cette bombe bactériologique, et qui se fait malencontreusement exploser.
Il s'est fait éclater la colonne vertébrale.
Tout à fait, et qui passe tout le film allongé à moitié en train de crever, quoi.
Il y a plutôt un bon casting. Ce qui est quand même le truc, l'apanage de Joel Silver aussi à cette époque-là, hein, c'est-à-dire qu'il savait s'entourer en fait de voilà, t'as Kurt Russell donc au milieu qui est quand même en plus dans un rôle assez finalement, enfin je veux dire Kurt Russell un héros d'action pour ses Snake quoi, tu vois.
Tout
donc
à fait.
Là,
mais là l'idée c'était un petit peu de jouer effectivement le contre-emploi, en faisant un intellectuel, un mec à lunettes qui est habitué au bureau. Et d'ailleurs bon, moi je sais que ça me fait marrer, mais c'est la scène où il rencontre pour la première fois, enfin, il croise Steven Seagal quoi. Et effectivement Steven Seagal donc en tant que chef de ce groupe commando, généralement c'est lui qui est là pour exécuter les plans de ces connards de costard-cravate du Pentagone, on va dire, ou de Washington. Et donc, quand on voit Steven Seagal débarquer en roulant des mécaniques dans les couloirs et qui croise la première fois Kurt Russell qui veut lui serrer la main, il le regarde et il fait une grimace en mode
ça. En français, non, en anglais, il dit Jesus, mais en français, c'était quoi? C'était Baltringue ou
Baltringue, un truc comme ça.
Et donc, parce que toujours compter sur la VF pour en rajouter une couche.
Exactement. Et donc, du coup, Kurt Russell, il est un peu là pour jouer effectivement le nerd. Par rapport au gros bras représenté par
Seagal. Mais ce qui est assez marrant, alors moi je m'étais fait cette réflexion à l'époque, en fait, c'est que les films d'action de cette année-là, spécifiquement, avaient tous, enfin les trois gros films de studio d'action, en fait, qui étaient The Rock et Broken Arrow et Ultime Décision, ils avaient tous, en fait, le même schéma de parcours du héros. sur le personnage principal, c'est-à-dire un mec plus ou moins... alors Christian Slater, en l'occurrence, si tu veux, c'est le type qui va dépasser le mentor, entre guillemets, et qui va devenir s'accomplir dans l'aventure à proprement parler, ce qui n'était pas forcément le cas... des personnages comme McLean, c'est déjà un dur, en fait, avant que le film commence. Tu
on se doute, qu'il a déjà quelques exploits à son actif.
Voilà, c'est ça. Schwarzenegger ou Stallone, c'était les mêmes logiques, quoi. Van Damme, tout ça. Mais là, c'était vraiment, genre, on prend des gens qui sont censés être, comment dire...
Là, c'est un peu le concept, c'est un limite, le Jack Ryan de La Poursuite d'Octobre Rouge. C'est-à-dire, c'est un spécialiste qui est normalement un mec qui lit des rapports et qui travaille sur un bureau, quoi. Et il est pas censé se retrouver effectivement élitreillé.
D'ailleurs, il veut pas, en fait. Il le dit ouvertement au début. Il dit vraiment, faut que je. Tu vois...
Tout à fait. Et effectivement, quand il se retrouve dans cette opération, vu les catastrophes qui vont s'enquiller, évidemment, parce qu'il faut des catastrophes pour une opération aussi compliquée, il va se retrouver à devoir prendre la tête d'une équipe alors qu'il ne se sent pas du tout les épaules. Et bien sûr, faire atterrir un 747 alors qu'il s'est à peine piloté un Cessna.
C'est là où, pour moi, j'aime bien Ultime Décision, c'est plutôt cool comme film, quoi, c'est plutôt sympa. C'était agréable de le revoir et tout. Il y a plein de petits plaisirs, on va dire, si tu veux, mais plus le film avance et plus, en fait, les mecs sont borderline, y a-t-il un pilote dans l'avion, je trouve, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, le nombre de coups de feu qui se tirent dans la carlingue de l'avion qui ne dépressurise jamais, le nombre de, tu vois, de trucs où, en fait, à Libéry, en fait, elle a pile poil, elle arrive à prendre le papier pour le mettre dans un truc et personne la voit, si tu veux, et les mecs se retournent, c'est vraiment, c'est là où tu te dis, un mec comme Stuart Baird, certes, sa mise en scène est très efficace, très fonctionnelle, mais en fait, il est à deux doigts du sens du ridicule, de perdre son sens du ridicule sur certains
points.
Oui,
mais le truc, c'est que comme justement il est très fonctionnel, ceux qui à l'époque faisaient de la parodie, mais qui savaient filmer de façon fonctionnelle, t'as l'impression de... Moi, la scène d'ouverture donc chez les Tchétchènes, je pense à Hot Shots 2. Hein,
mais cette scène, c'est la meilleure scène du film. Déjà, c'est Steven qui est en train de latter tout le monde, quoi, tu vois. Il arrive, la scène, elle s'ouvre, c'est Steven qui met trois coups de couteau dans la nuque d'un mec. J'ai fait, ah, mais c'est Steven, là. C'est d'ailleurs qu'il est dans le noir, tu le vois pas et tout, tu vois. Et voilà, c'était lui, tu vois. D'ailleurs, c'était un rôle qui était prévu, et on va un petit peu en parler.
Oui.
C'était un rôle qui était prévu pour Tommy Lee Jones. C'est-à-dire que je pense que c'est, il faut savoir qu'à cette époque-là, parce que c'est un second rôle, il était même pas sur l'affiche américaine. Il a été rajouté sur l'affiche française, d'ailleurs, avec un t'as l'impression que c'est un gosse qui a rajouté
Il n'est pas encore Photoshop
Steven,
à l'époque.
c'est un gosse qui a rajouté rajoutez-moi Steven là-dessus, tu vois. Et en fait, c'est horrible, quoi, quand tu regardes l'affiche française, quoi. Mais, et je pense, en fait, qu'il a été rajouté très, très tardivement, en fait, il a été casté très tardivement, en fait, dans le projet, parce que donc il y avait la rumeur de Tommy Lee Jones. Il y avait aussi l'idée que son va-tout à ce moment-là, au moment où ils avaient commencé à tourner le film, c'était Under Siege 2, qui s'est planté. Il faut savoir que la Warner a pour habitude de signer des acteurs par contrat de 3, en fait 3 films. Genre ils leur en doivent à chaque fois, c'est vous signez un contrat, vous faites 3 films pour nous, quoi. Et que donc Ultime Décision était une manière de terminer une partie du contrat de Steven Seagal, en fait, voilà, en lui filant, on va dire, un second rôle de qualité, quoi.
Oui. Alors, oui, le truc aussi, c'est qu'il fallait, pour ce rôle-là, en gros, une tête, pas une tête d'affiche, mais un personnage, un comédien très identifié. On peut le dire, on peut spoiler quand même, non?
Bah oui, parce que c'est important, c'est quand même le moment le plus triste du film, quoi, voilà. Moi, je trouve, tu vois.
Puisque donc, le personnage de Steven Seagal, effectivement, meurt.
Mais moi, je pense que c'est encore débattable. je me demande s'il est vraiment mort, tu vois.
Et c'est même absolument nécessaire, puisque basiquement, l'intrigue, elle commence là. C'est-à-dire que normalement, cette opération, elle devrait se dérouler comme sur des roulettes, sauf que, il se trouve que le chef de cette équipe Clamps, donc Steven Seagal, et c'est là que Kurt Russell se retrouve à devoir reprendre, alors que le mec, il voulait même pas, il sait même pas faire les lacets de ses chaussures. Mais il va devoir faire ses preuves auprès de ces mecs qui ont été habitués à suivre the best of the best of the best, qui était évidemment Steven Seagal, qui... De toute façon, on sait très bien qu'à l'époque où il travaillait vraiment pour la CIA, il était déjà the best of the best of the best. Hein.
En tout cas, c'est... Mais je pense que quand il est sorti de sa mère, il était the best of the best of the best direct, tu vois.
Donc il fallait quelqu'un qui puisse incarner cette idée du militaire ultra, on va dire, quoi, pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, le film finalement n'est connu que pour ça. C'est le film où Steven Seagal meurt. Mais, clairement, enfin moi, je sais qu'en faisant quelques petites recherches à droite à gauche sur Internet, c'est vraiment le premier truc qui est systématiquement mis en avant.
En fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que Steven Seagal, en fait, je pense que pour Steven, c'est la honte de mourir dans un film, tu vois. Donc, en gros, il l'a accepté parce que je pense qu'on a dû lui expliquer qu'on lui payait un certain cachet, que patati patata. Apparemment, il a fait chier son monde sur le plateau.
Alors, clairement, c'est surtout John Leguizamo en fait qui raconte des années à passer son temps à dober dessus parce que ils ont failli en venir aux mains. Enfin, ils en sont même venus aux mains puisque donc, comment dire, d'après Leguizamo, quand l'équipe s'est réunie, tout le monde était à peu près. On va dire à égalité, ils étaient sous la direction de Stuart Baird, ils faisaient ce que Baird leur demandait de faire, et dès l'instant où Steven Seagal s'est pointé sur le plateau, c'était en mode « je suis le chef ». Mais je suis chef au sens limite, le réalisateur n'a plus son mot à dire. Et tout le monde fermait sa gueule, sauf Leguizamo qui passait son temps à ricaner bruyamment, tu sais, en se raclant le nez assez fort. Et d'après lui, un jour, Steven Seagal l'a carrément pris et lui a fait une clé d'aïkido pour le calmer. Et au lieu de chialer sa race, il s'est mis à ricaner plus fort, en fait, ce qui l'a rendu l'autre complètement dingue. Bon, ceci dit, Leguizamo a pas l'air d'être un mec non plus très facile, parce qu'apparemment, ils ont failli aussi en venir aux mains avec Kurt Russell, puisqu'il passait son temps, Leguizamo, à sortir de son personnage, mais à rajouter des répliques qui n'étaient pas dans le script, dont certaines sont restées dans le film, quoi. Et ça découle.
C'était quoi? Attends, il y avait une réplique.
Oui, je crois. Peut-être qu'ils
nous ont. J'espère que l'odeur ne va pas les.
J'espère que l'odeur ne va pas les déranger. Ben, ça, c'est typique de la réplique qui n'était pas dans le script. Ouais. Et où Kurt Russell a failli lui envoyer un pain, parce que lui, il a besoin pour suivre son texte, tu vois, que les autres le suivent aussi, quoi. Mm. Et l'autre passait son temps à faire
improviser,
le couillon, quoi. Mm. Donc c'est un peu un.
Ah, il voulait avoir la punchline, quoi.
C'est un trickster, Leguizamo. Mmh. Hein. D'ailleurs, il a joué un personnage de clown de
ouais,
Joker
dans Spoon.
Hein, dans Spoon. Ouais. Donc, c'est un trickster un peu. Mais donc, voilà. Et apparemment, depuis, au fil des premières, etc., entre Leguizamo et Steven Seagal, c'est surtout fait en sorte que leur limousine n'arrive pas au même moment. Quoi.
Alors, moi j'ai une théorie quand même sur Ultimate Decision et la mort de Steven. Est-ce qu'on le voit vraiment mourir?
Non.
Alors, voilà. Non. En fait, pendant tout le film, la première fois que je l'ai vu, je le savais
mais,
pas.
Par contre, on les voit se sacrifier pour les autres. Et ça, c'est typique de la façon de procéder de Stuart Baird, hein, qui encore une fois est un monteur. Mais il y a un plan qui est vraiment, où tu le vois fermer la soute pour éviter que l'explosion de l'appareil, en fait,
la dépressurisation
n'atteigne son équipe, quoi. Il sait qu'il va mourir. Il fait sortir Morton, qui est le gars qui a été blessé. Et en gros, il ferme la soute en mode je vais crever, mes hommes y arriveront. Voilà.
Et donc, en fait, là, tu vois le truc se dépressuriser, tu vois son corps partir.
On voit le pilote qui s'éjecte avec son siège éjectable.
Non.
Le pilote de l'avion furtif s'éjecte.
Ah oui.
Lui, il survit. On voit l'avion partir.
Avant la dépressurisation, en fait, t'as le corps de Steven qui giclait.
Oui.
Ma théorie, c'est qu'il était peut-être accroché à l'avion, à l'aile de l'avion, parce que c'est Steven quand même, on parle de lui, tu vois. Au début, tu sais, comme t'as toujours les phrases, en fait, pour, t'expliquer comment le gaz fonctionne, comment tous ces trucs-là et tout ça, etc. Donc, ils sont dans un truc d'état-major, tu vois. Et t'as Kurt Russell qui leur explique, si cette goutte d'eau, c'était le gaz, tu vois, et là, il monte la goutte qui tombe dans le verre d'eau, tu vois, il dit, ça tuerait tout le monde dans cette pièce. Moi, je pense que ça tuerait tout le monde sauf Steven. Donc, je pense qu'il faut le dire, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que théoriquement parlant, je pense que ça se tient, en fait, et qu'on peut faire une suite avec Steven, tu sais, à Ultime Décision, mais je pense qu'on pourrait expliquer qu'il était accroché à l'appareil, on pourrait faire un truc, tu vois.
Mais je crois que, je vais pas dire de bêtises, mais il y a eu une suite, en fait, un spin-off. En 97, un petit budget, un direct vidéo qui s'appelait Stratégique Commande.
Ça n'a rien à voir. C'est juste une pompe.
Je veux pas te dire de conneries, mais je pense que c'était plus ou moins officiel. Il faudrait voir qui était le producteur derrière. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça par rapport à la production, mais au départ, c'était pas un projet Warner. C'est un truc qui a été développé par la Paramount parce que c'était c'était quand même un projet high profile.
Hein,
c'était un truc attendu. On était quand même, on sortait, de Speed, de tous ces films d'action qui avaient vraiment bien cartonné. Et tout le monde en attendait beaucoup de ce film-ci. Paramount cherchait à avoir les droits de Forrest Gump, en fait, qui était chez Warner. Bref, fait, ils ont fait un échange de bons procédés. Donc Warner a fait une affaire, ils s'en foutent les mains. On leur a filé Forrest Gump et nous, on a ultime décision.
Mais le truc, c'est que surtout que Forrest Gump, apparemment, mais bon, c'est pas un podcast sur Forrest Gump, mais c'est un film qui a été en turnaround pendant des années parce que il y a plein d'acteurs en fait qui ont refusé le rôle. Il y avait Travolta qui devait jouer le rôle, il y avait je sais plus qui, et en fait jusqu'à ce que ça se fasse avec Zemeckis et parce qu'il y a Spielberg aussi, je crois, il me semble, en fait, qui était peut-être sur le film, je sais plus, enfin bref, mais il y a tout un tas de réals et de stars en fait qui se sont poussés à la sortie en fait avant que Zemeckis et Tom Hanks fassent le film. Donc c'est pour ça qu'il avait une espèce d'aura de film maudit qui a finalement cartonné, quoi, alors que effectivement Ultime Décision, c'était un die-hard dans un avion, quoi, en fait. D'ailleurs, en fait, le fait que ce soit Joel Silver qui produise le film, ça se termine littéralement de la même manière que Die Hard, où il embarque la nana dans sa limousine.
Avec
une chanson de Sinatra, tu vois.
Sur la carlingue de l'avion qui est encore fumante.
Voilà, à l'ancienne. Donc c'est vraiment le plan, la sortie à la Die Hard, quoi.
Non, mais on est clairement dans une production Joel Silver typique de l'époque, ce qui a aussi ses avantages. Ça veut dire que, il faut dire ce qu'il y a, techniquement, c'est vraiment irréprochable.
D'ailleurs, en fait, c'est assez surprenant qu'il y a beaucoup de travail de maquettes, en fait, qui, je trouve, sont encore hyper impressionnants.
Voilà. Il y a des incrustations qui sont un peu foireuses sur le Ramorin.
Après, encore, les plans sont assez jolis, je trouve. En fait, sur le coucher de soleil, il y a toujours la même...
Les couchers de soleil, donc, je peux pas m'empêcher de le citer, parce que bon, j'ai été grand fan de ce mec à l'époque, avant qu'il se mette à bosser sur des productions de type Executive Decision. La photo est d'Alex Thompson, qui est le chef opérateur, notamment, du Légende de Ridley Scott, mais aussi Dark Crystal, Excalibur, enfin bon, bref, c'était Monsieur Medieval Fantasy des années 80, quoi. C'est Jordan Cronenweth. Mais c'était, voilà, quand tu pensais vraiment Medieval Fantasy, tu pensais Alex Thompson, quoi. Et effectivement, il a eu toute une phase de sa carrière autour de l'actionneur, avec Cliffhanger, Demolition Man, et donc ce fameux Executive Decision. Et du coup, effectivement, quand il nous fout des couchers de soleil, c'est pas un coucher de soleil, c'est the coucher of the soleil, quoi.
Mais c'est plutôt cool. C'est aussi cliché que ça puisse faire. C'est très cinématographique, en fait.
Même les comédiens, enfin, on dira ce qu'on veut, mais enfin, je mets au défi quiconque de me sortir un film où Halle Berry est plus craquante que qu'elle ne l'est là.
Son petit duvet.
une petite moustache. Mais c'est vrai qu'en plus, tu le vois bien avec la HD aujourd'hui.
Sur certains plans,
Mais non, mais elle est vraiment magnifiquement mise en valeur par la photo, quoi.
Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur ce truc-là, c'est que Halle Berry, elle s'est fait connaître par certains petits rôles et tout, comme dans Le Dernier Samaritain, par exemple, ce genre de choses. C'est le premier film où elle a touché $1 million.
Exactement.
Exigé, en fait, pour avoir le...
Exigé, je sais pas comment ça s'est passé. Le truc, c'est qu'il faut... Bon, après, je veux pas rentrer dans des affaires, du buzz, quoi.
Ouais.
Mais donc, Joël Silver a toujours eu un faible pour les Nana Black, et il s'est quand même bien occupé, la carrière d'Halle Berry.
Ça veut pas forcément dire que, tu vois...
Pour les avoir vus tous les deux ensemble... Bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose.
C'est Voici, là. Non, c'est Stories.
Oui, c'est Voici. Quand j'ai interviewé Joël Silver, Halle Berry était présente et effectivement, j'ai rarement vu une nana aussi bienveillante
après il faut reconnaître
au sens où elle c'était presque un rapport père-fille, quoi, si tu veux. Elle lui sautait dans les bras, etc. Donc, mais en mode, elle sait que ce mec-là a vraiment assuré
sa carrière,
quoi. Il l'a posé, il voulait que cette meuf réussisse et devienne une vedette. Et effectivement, il a filé, parce qu'un rôle comme ça, c'est limite le rôle de Sandra Bullock dans Speed, quoi. Alors elle joue pas la petite rigolote et tout ça, mais je veux dire, ça a le potentiel de transformer une actrice que personne n'a remarqué en tout d'un coup un icône.
Ouais, et puis de toute façon, en plus, elle le joue vraiment bien. C'est-à-dire que
elle est tout à fait convaincante, mais je veux dire, enfin, le truc, c'est que non, effectivement, on essaie de vous faire croire que ça a été une lutte de sa part à elle pour pouvoir s'imposer et gagner $1 million. Je pense que Silver, il était disposé à lui donner de la place, quoi.
Mais ce que je dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est un truc qui est apparemment aux États-Unis, dans le milieu du cinéma, le premier $1 million en fait, et un jalon en fait pour les négociations sur les relations aussi.
C'est et puis ça, à cette époque, voilà, surtout sur une actrice afro-américaine, parce que bon, il y avait quoi, il y avait Whoopi Goldberg en gros qui pouvait prétendre ce genre de truc.
Bah, beaucoup plus que ça même. Hein. Mmh. Whoopi Goldberg quand elle faisait ses comédies, elle touchait 7, 8.
Et Whoopi Goldberg qui est aussi en dehors de La Couleur Pourpre, qui est-ce qui a produit son film suivant, c'était Joel Silver. Ouais. Donc, d'ailleurs, il faudra qu'un jour qu'on fasse un truc sur Silver et les Afro-Américains, parce que il a essayé Carl Weathers. Enfin,
je sais pas s'il faudra qu'on fasse un podcast sur ça spécifiquement, sur Joel Silver. Oui, mais c'est vrai que
c'est sujet, ça a été une obsession chez lui de faire bosser les Afro-Américains.
Mais c'est parce qu'en fait, il était aussi producteur à une époque où, en gros, t'avais pas forcément de tête d'affiche, effectivement, avec des noirs à l'écran. Ouais. T'avais pas de. Voilà,
et, donc, sauf dans ses films à lui, quoi. Ouais. Vous étiez vraiment toujours.
Et d'ailleurs, il a eu des je crois, il a eu des titres honorifiques, en fait, justement, à cause de ça.
Ça ouais, ouais.
C'est-à-dire pour le fait, justement, de valoriser.
En tout cas, effectivement.
L'inclusion, en fait.
On peut considérer que c'est le premier vrai film d'Alberi. Parce que, bon, on ne peut pas vraiment dire que le fait de jouer une stripteaseuse.
Dans les Samaritains, ce soit vraiment
un rôle marquant, quoi, si tu veux.
Non, donc, mais tu te rappelles d'elle. Tu vois, parce que c'est quand même.
Là, tu te rappelles de ses jambes, quoi.
D'elle parce que tu butes pas une jolie pépée comme ça aussi facilement dans les films non plus. C'est-à-dire que. Et en fait, pour le coup, elle est identifiable.
Moi, c'est vraiment sur Executive Decision où je me suis dit, mais au fait, c'est qui cette meuf, quoi. Parce que son rôle est effectivement conséquent, surtout dans un film qui est quand même, là, pour le coup, un film de mec, quoi.
Ouais, puis elle a eu des rôles aussi à la télé, hein. Il y a eu des trucs entre temps. Bon, nous, on les a pas forcément vus arriver.
Donc, on a Alex Thompson à la photo qui magnifie quand même pas mal, je trouve, le film, et puis un autre atout qui, moi, évidemment, me touche au plus profond, qui est la musique de Jerry Goldsmith. Alors, je tiens à préciser, connaissant le personnage, je pense qu'il a composé le score d'Executive Decision en se réveillant le matin et qu'il l'a terminé à 10h30, si tu veux, parce que voilà, il avait le talent nécessaire pour pouvoir accoucher de ce genre de trucs-là. Et ça repose beaucoup sur des trucs assez mécaniques que Goldsmith avait déjà l'habitude de faire dans d'autres films. Mais du fait du caractère un petit peu bourrin du film, il y a ce thème qui revient régulièrement, qui est le thème
qu'on entend dans le générique d'ouverture.
Et qui est en fait le thème du Ramora. C'est un thème qui a été composé pour l'avion, quoi. Avec des grosses batteries synthé dans ta gueule. Et voilà, c'est pour l'anecdote d'ailleurs qu'à l'époque où on commençait Capture Mag, je sais pas si tu t'en souviens, mais on cherchait un générique de début et j'avais proposé Executive Decision.
C'est presque trop identifié, en fait. Mais c'est vrai qu'il est superbe, ce thème. Mais moi, je me rappelle que c'était un des premiers trucs qui t'accroche quand tu lances le film, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, en revoyant le film, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est de voir les vues satellites qui s'affichent en 56K sur une musique aussi martiale, et tu te dis, à l'époque c'était c'est technologique, mais là aujourd'hui c'est un peu moins l'image elle est un peu moins forte, quoi. Mais de toute façon, la musique de Ultimate Vision, elle est mortelle, hein. C'est clair que c'est du côté de Rambo 2, quoi, tu vois.
Ah, clairement, oui, bien sûr.
Tu te lèves, t'as pas besoin de café, quoi.
Avec des accents de Total Recall, quand même, dessus.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, tu fais de la muscu, quoi.
Ouais,
sur cette musique, c'est ça le truc.
Donc, et ça marche. C'est la scène, vraiment, où la musique est le plus mise en valeur dans le film, c'est la scène où on découvre l'avion, donc le Ramora, et où on le voit décoller, prendre son envol et tout ça. Et ça, c'est du military porn, quoi. C'est un truc, finalement, j'ai l'impression que ça a un peu disparu au cinéma.
Parce que tu regardes pas les films de Michael Bay.
Sauf dans les films de Michael Bay, voilà. Mais ce fétichisme, en fait, des véhicules militaires, des armes militaires, voilà, où tu prends 5 minutes juste pour que les mecs aient le temps de se branler un bon coup, tu vois, dans la salle, dans le Middle West américain, où les mecs font « Ah, putain, qu'est-ce que c'est beau bon. !» Avec derrière le coucher de soleil d'Alex Thompson, enfin, genre, c'est tu fais pas plus sexy, quoi.
Après, il y a un truc qui est assez intéressant sur la structure du film, en fait, c'est que c'est étrangement un film qui prend son temps. C'est-à-dire que 3-4, on a fait un podcast dessus, là, récemment, 3-4 ans avant, t'avais finalement un film qui, peu ou prou, pour être la même chose, c'est Passager 57, tu vois, qui fait 1h20, tu vois, et qui, comment dire, n'est absolument pas, mais pas du tout réaliste dans son approche, en fait, du sujet, quoi. Là, y a toute l'idée, en fait, de montrer que quand tu te déplaces dans la carlingue, il faut être très discret, que donc, en fait, si tu veux, ça prend du temps pour ne serait-ce que percer des trous pour faire passer les caméras, etc., etc., et tout devient une espèce d'enjeu. Presque de montage, en fait, dans le film, parce que d'un seul coup, il faut, raconter ça de façon hyper visuelle, quasiment sans ligne de dialogue. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un des problèmes du film. Je sais pas ce que t'en penses, mais quand il y a deux, trois, il y a des petites longueurs, mais ça, c'est pas encore ça le plus grave. C'est qu'il y a deux, trois lignes de dialogue où tu te dis, putain, mais vendez pas la mèche, bande de nigauds, quoi. C'est-à-dire que t'as, à un moment donné, t'as Oliver Platt qui est tout le temps en train de mâchouiller son sa paille là, tu vois, et il lui dit mais si j'arrive pas à faire le truc, Kurt Russell il fait bah utilise ta paille magique ou je sais pas quoi. Et en fait c'est le truc de merde qui arrive à la fin où
le fusil de Tchekhov, pas discret.
Mais c'est juste pas discret du tout. Et en fait, du coup, tu te dis, mais c'est, vous pouviez pas juste masquer un tout petit peu cette ligne de dialogue, on en a pas forcément besoin. Tu vois, c'est ce genre de truc, en fait, un peu, je trouve. Ouais, c'est le in your face, en fait, des dialogues.
Ça se faisait beaucoup aussi à l'époque.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qui se faisaient beaucoup à l'époque. Et notamment, au début, à une époque, on pouvait pas forcément re-shooter aussi facilement certaines scènes. Il y a toute qui est horrible, hein, moi, je trouve, en fait, ce passage-là. C'est tout le montage autour du kidnapping de...
Du terroriste, j'ai plus son nom, mais
voilà, chiffre. Et en fait, tu vois que c'est remonté, mais
c'est clair,
n'importe comment, parce que les mecs se sont dit, putain, ça dure 5 minutes, il faut que ça passe en 40 secondes, quoi.
Ouais, Anthony Scott du pauvre.
Très pauvre. Parce que c'était pas comme ça.
Avec des semi-freeze frame de merde.
Voilà, c'est ça, et du ralenti, de post-prod et tout.
Et surtout, ça, au niveau du montage séquentiel du film, ça arrive un peu n'importe comment. C'est en plein milieu d'un dialogue, et tout d'un coup, t'as ça qui...
Et du coup, tu sens que en fait, il fallait montrer la scène parce que la scène, elle existe, tu vois, et qu'il fallait qu'on explique les enjeux. Mais en gros, t'as un exécutif qui est passé par là qui a dit, on se fait chier là, tu vois. Donc vous me coupez tout ça, quoi.
Et puis il y a toute la description de des terroristes.
C'est vrai, on en a pas parlé.
On dit pas ouvertement c'est des musulmans, mais voilà, mais qui.
On dit pas ouvertement, enfin bon.
Qui finalement qui a à peu près à 2 mm de True Lies, quoi. Parce qu'ils ont les cheveux longs, ils ont les cheveux gras, ils commencent à se déplumer en haut du crâne. Je crois qu'ils disent à la Wakbar, il y en a un qui le dit au début dans le restaurant anglais, il me semble qu'il le dit. Mais c'est voilà, si vous, enfin, je vous décris la séquence pour ceux qui n'auraient pas vu, mais on est dans un restaurant anglais de luxe.
Très épais, ouais.
Voilà, avec un type qui est fringué comme un baiseur de chèvre du Moyen-Orient, quoi, en gros. Donc forcément, il se fait remarquer. Et le garçon vient lui demander, mais
il sue, quoi. Voilà. Oh, ça va.
Et le type se retourne avec effectivement plein de sueur, et il est en plein milieu d'un sourate du Coran, tu vois, en train de réciter un sourate du Coran. Et là, le serveur baisse les yeux et voit la ceinture d'explosif avant que le type ne se fasse péter, quoi.
Pas très discret.
Et c'est là où tu te dis, effectivement, True Lies, Shots 2, on sait pas trop, quoi. Tu t'attendrais à ce qu'à juste avant de péter, il crie « Omar Sharif !» Et voilà, ça explose, quoi, si tu veux. Mais donc, oui, ça, c'est très, très marqué années 90, quoi.
Ouais, mais il y a ça, et puis il y a l'idée que ça soit David Suchet qui joue le terroriste en chef, tu vois.
Le chef du terroriste, voilà, tout à fait.
Et en plus, ce qui est plutôt convaincant, hein, tu vois, ça, c'est...
Bah, il a un regard
de... C'est un acteur, quoi, tu vois.
Il a un regard de faucon, quoi. Donc,
ouais, mais le mec, il jouait Hercule Poirot, si tu veux. Donc en fait, d'un seul coup, tu le vois jouer un terroriste arabe et tout, et tu te dis, c'est plutôt un bon acteur et tout, mais il y a cette notion que c'est pas un arabe qui joue le rôle d'un arabe, parce que t'as l'impression qu'à cette époque-là, il fallait pas leur filer ce genre de rôle-là, sinon on passait pour des fieffés racistes ou des trucs comme ça, quoi, tu vois.
Ouais.
Et donc du coup, tu vois, toute cette espèce de questionnement délicat autour de comment on va jouer ce rôle dans le film.
Non, c'est pas ça, Stéphane, t'as une mauvaise langue. C'est juste que si on devait faire un chef terroriste, il fallait lui donner du charisme et de la beauté, donc on prenait pas un arabe.
Ouais, d'accord. Alors,
bon. C'est comme ça que ça marche.
Voilà.
Mais non, mais c'est vrai.
Ok, Rafik.
Non, mais c'est surtout je pense qu'ils l'ont pris parce qu'il a effectivement un regard. Un regard de faucon, quoi. Donc tu sens que ce mec-là, il faut pas déconner avec lui, quoi.
Pourquoi un gros bouseux de l'Arkansas, US Marshal en chef de l'avion, là,
ouais,
toi,
ouais.
Si tu veux, ils prennent Richard Reel et la gueule du gros bouseux de l'Arkansas, voilà, tout est dit, quoi. Alors,
et G.T. Walsh en gouverneur.
En plus, j'adorais G.T. Walsh, moi j'adore. Ouais, mais il est grec.
Il est grec, G.T. Walsh.
C'est le Sénat. Non.
Il joue un grec, pardon, Mavros.
Mavros, c'est Doukakis, quoi. En gros, c'était la logique, quoi, tu vois. Mais en fait, tu vois qui c'est, Richard Reel? T'es le mec avec ses gros yeux qui poussent et tout. Ah, moi, je l'adore. C'est un de mes seconds rôles préférés. À chaque fois que je le vois débarquer, je suis trop content, quoi.
Qui intervient en dernière minute, on va dire.
Parce que lui, c'est pas un regard de faucon, hein. Lui, c'est un regard de loutre ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, il est génial, je l'adore, moi. Tu vois. Bref, bon, je pense qu'on a...
On a fait le tour de ce film, de ce monument, ouais.
Voilà, qu'effectivement, ultime décision, donc, alias, le film où Steven Seagal meurt, tu vois.
Ouais.
Mais il faut pas lui rappeler, je pense.
Et pour tous les fétichistes d'armes à feu, de véhicules militaires, oui, qui est un
super avion furtif,
un joli military porn des années 90, comme on en fait hélas plus, quoi.
Aussi un film donc où le héros est une baltringue qui devient donc oui. un mâle alpha, tu vois.
Voilà.
Comme dans Broken Arrow, donc, et comme dans The Rock, les deux autres gros films d'action des années 80, ouais. de l'année 96, pardon.
Et Alberi qui est vraiment, vraiment joli dans ce film. Moi, je désolé de revenir sur mes considérations érotiques, mais
ouais,
je pense que c'est, mais je pense que ça fait aussi partie de la beauté du spectacle. Quoi.
Certes, et on peut arrêter le podcast ici parce que quand on parle de la beauté de l'actrice, c'est qu'on n'a plus rien à dire sur le film. Quoi. Voilà. Bah, merci Raph.
Merci Steph.
Merci à nos auditeurs. Merci Alain. Merci à la technique qui était là, qui glousse à toutes les conneries qu'on sort. Quoi. Vous nous écoutez sur nos podcasts habituels et puis on revient tranquillement avec une série de films d'action qui déménagent. Je crois, Rafik, que le prochain film qu'on va faire ensemble, il faut pas trop spoiler, ne spoilons pas, mais c'est quand même un sale film crapoteux, en fait, on n'en dit pas plus.
Ça va être chaud pour toi. Ouais.
Voilà, ça va être chaud pour moi, et toi, il va falloir que tu m'expliques. Voilà. Merci à tous, au revoir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.